Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal Hélène des Tombes.
Bonsoir. Les travaux du G7 se poursuivent dans le sud-ouest de l'Angleterre. Après avoir planché sur la prévention de futures pandémies, les participants se sont concentrés ce samedi sur un volet plus politique et diplomatique. Ils mènent une réflexion sur un plan mondial concernant les infrastructures afin de soutenir les pays défavorisés et de répondre aux défis posés par la Chine et la Russie. Les précisions de Jean Jaffray.
Le Premier ministre Boris Johnson a qualifié de moment historique la déclaration de Carbis Bay, le plan proposé par le G7, afin de prévenir de futures pandémies provoquées par des virus transmis par des animaux aux humains. Il s'agira notamment de réduire les délais pour développer de nouveaux vaccins, ainsi que les processus de validation par les agences de santé. Aucune décision cependant sur la suspension des brevets des vaccins qui permettrait une accélération des campagnes de vaccination. Sur le plan diplomatique, les dirigeants approuvent un programme de construction d'infrastructures de centaines de millions de dollars dans les pays défavorisés pour concurrencer les nouvelles routes de la soie mises en place par le régime communiste de Pékin. Enfin, à la suite d'entretiens en tête-à-tête ce matin, le Premier ministre a de nouveau appelé les dirigeants européens à faire preuve de pragmatisme et de compromis sur le protocole nord-irlandais, un document diplomatique qu'il a lui-même signé après des mois de tractations. Long Jean Jaffray, Radio Vatican.
Et alors que se tient ce sommet des sept plus grandes puissances de la planète, la Caritas a de nouveau appelé à l'annulation de la dette des pays les plus pauvres afin de leur permettre d'investir dans leur système de santé et de faire face à la crise climatique, une proposition portée depuis longtemps par le Saint-Siège. Plus de précisions à l'adresse vaticannews.va. Joe Biden et Vladimir Poutine ne se présenteront pas côte à côte face aux journalistes à l'issue de leur rencontre prévue mercredi à Genève. Le président américain s'exprimera seul lors d'une conférence de presse, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la Maison-Blanche, précisant que ce format était le plus approprié pour présenter clairement les sujets évoqués, à la fois sur de possibles convergences et sur les thèmes qui suscitent de réelles inquiétudes. Le Nigeria de nouveau endeuillé, 53 villageois ont été tués dans 6 villages de l'état de Zamfara dans le nord-ouest du pays. Les auteurs de cette attaque sont des voleurs de bétail armés. Arrivés sur des motos, ils ont agressé les habitants qui travaillaient dans leurs fermes. Et toujours concernant le Nigeria, des manifestants anti-gouvernementaux qui dénoncent notamment l'insécurité se sont rassemblés aujourd'hui à Lagos et à Abuja. Ils ont été dispersés par la police qui a procédé à des arrestations. Plusieurs personnes ont été blessées. En Algérie, quelques 24 millions d'électeurs votent ce samedi pour élire les plus de 400 députés de l'Assemblée populaire nationale. Un scrutin législatif qui se tient dans un contexte tendu entre contestation et répression. Il a été rejeté par le mouvement populaire du Irak et une partie de l'opposition. Le taux de participation est l'un des enjeux de cette élection qui constitue une nouvelle étape de la feuille de route du gouvernement algérien en quête de légitimité. Une femme armée d'un couteau a été tuée par un garde-frontière israélien. Elle se dirigeait vers les forces israéliennes stationnées à un point de passage en Cisjordanie occupée et selon la police ne s'est pas arrêtée sous l'injonction du garde-frontière. En Irak, deux généraux soupçonnés de corruption ont été arrêtés ce samedi. Ils sont en charge du port d'Oum Qasr, principal point d'entrée des importations de nourriture et de médicaments. Plus de 3000 dollars ont été découverts dans leur bureau, vraisemblablement des pots de vin destinés à faciliter le transit de certaines cargaisons. L'Irak est gangréné par la corruption et l'évasion fiscale fait perdre à l'État environ 90% des recettes douanières. Le Liban s'enfonce chaque jour un peu plus dans une grave crise politique, économique et financière. Conséquence, de plus en plus d'enfants, en particulier des filles, sont contraints de travailler. À l'occasion ce samedi de la Journée mondiale contre le travail des enfants, focus sur une réalité dramatique dans le pays du Cèdre avec Paul Ralifé.
C'est surtout dans le secteur agricole que le travail des enfants prend des proportions phénoménales. L'ONG Plan International a noté une augmentation de la main-d'œuvre enfantine de 40 à 61%. Les enfants représentent parfois 30% de la main-d'œuvre totale dans l'échantillon de ferme étudié par l'association, selon la coordinatrice de la protection de l'enfance, Norma Kazan. Colin Lee, le directeur de plan international pour le Moyen-Orient, tire la sonnette d'alarme. Ce phénomène expose les enfants, surtout les jeunes filles, aux pires formes de travail et menace leur croissance, leur éducation, leurs aspirations et leur bien-être général. Il met en garde contre les risques d'exploitation, le harcèlement et l'explosion du mariage précoce. Des sources libanaises indiquent que le travail des enfants, qui touchait essentiellement les réfugiés syriens, s'est désormais étendu aux régions rurales libanaises. Beaucoup de familles qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts ont déscolarisé leurs enfants pour les envoyer dans les champs. Si la majorité de la main-d'œuvre enfantine est recrutée pour l'agriculture, d'autres sont dans le travail domestique, en usine, dans la restauration, la mendicité ou la vente de rue. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
À l'occasion de cette journée mondiale contre le travail des enfants, le pape François a rappelé dans un tweet que les enfants sont l'avenir de la famille humaine et que revient à nous tous le devoir de favoriser leur croissance, leur santé et leur sérénité. Entretien dans notre dossier avec le cardinal Joseph de Kézel, archevêque de Malines-Bruxelles en Belgique, qui vient de publier un livre intitulé « Foi et religion dans une société moderne » paru aux éditions Salvator. Dans cet ouvrage, qui est à la fois une méditation spirituelle et une analyse historique des mutations du christianisme et de la transformation des sociétés européennes, le cardinal belge présente sa vision du rôle de la foi chrétienne dans une société moderne et sécularisée. Il nous explique tout d'abord que la liberté religieuse ne peut s'épanouir que dans un contexte de pluralisme dans lequel aucune religion n'impose sa loi à l'ensemble de la société.
C'est clair que dans une culture religieuse chrétienne, il n'y avait pas de vraie liberté religieuse. Dans une culture religieuse, les minorités sont toujours en danger. Dans la période de la chrétienté, c'était le sort des juifs. Pour le moment, par exemple, dans les cultures musulmanes, où l'islam est la religion culturelle, le chrétien est un peu un citoyen de deuxième ou de troisième rang. Donc la liberté religieuse, c'est un fruit de la modernité. Le pape Jean XXIII l'a dit, hein, comprendre les signes du temps. Et là aussi, l'Église a évolué. Et c'est comme ça que je dis que le Concile Vatican II a été vraiment un concile providentiel qui a ouvert certaines portes. Mais imaginez-vous qu'on n'a pas eu le Concile Vatican II, on serait dans une impasse aujourd'hui.
Dans les relations entre l'Église catholique et les autres religions et courants philosophiques qui animent nos sociétés, comment faire preuve de respect et d'amitié sans renoncer à sa propre identité, à ses propres racines et donc au témoignage de la foi en Jésus-Christ?
S'il y a vraiment l'aspect de l'autre, c'est à partir de sa propre identité. C'est toujours comme ça. Imaginez-vous un enfant qui vient de naître et on doit l'éduquer. Imaginez-vous qu'on dit « il ne faut parler avec personne, tu es libre, tu fais ce que tu veux ». Il ne fera jamais quelque chose dans sa vie. C'est dans la rencontre de l'autre que je découvre moi-même et que je construis moi-même. C'est ainsi aussi pour le croyant. C'est l'amitié qui évangélise l'Église et sa mission. Je ne peux pas la définir sans relation au monde. L'Église n'est pas un monde à part.
Le monde et l'Europe traversent depuis plus d'un an l'épreuve de la pandémie de coronavirus. Vous êtes vous-même marqué par l'épreuve d'un cancer. Est-ce que la maladie est aussi l'occasion pour la société comme pour chaque personne dans son intimité physique même de sortir de cette tentation d'autosuffisance et de s'ouvrir à une forme de transcendance?
Oui. Je l'ai vécu moi-même. Il y a un texte dans le livre de l'Exode où le peuple de Dieu va sortir de l'Égypte. Le Seigneur se dit, ils devront traverser le pays des Philistins et ils vont retourner en Égypte. Le peuple doit faire un détour par le désert. Le désert est le lieu où on apprend des choses qu'on risque d'oublier, et parfois des choses importantes. Personnellement, pour moi, je suis devenu très très attaché aux psaumes. J'étais un peu obligé par ma maladie, j'avais plus de temps pour prier lentement, et j'ai découvert beaucoup de ces paroles, devenaient mes propres paroles, mon angoisse, mon espoir, mon cri. Et donc, ça a été pour moi un grand réconfort dans ma maladie, la prière et notamment la prière des psaumes. Mais j'espère aussi qu'après la pandémie, c'est le règne de la liberté. J'espère que ce ne sera pas une liberté qui nous rend indifférents pour l'autre. La liberté est liée à la fraternité. Il n'y a pas de vraie liberté sans fraternité. Servir le bien commun, avant tout.
Interrogé par Cyprien Viette, le cardinal Joseph de Kézel, archevêque de Malines-Bruxelles, était l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.